Bonjour à tous, voilà un petit mot d'ordre technique avant l'envoi de cet épisode. Voilà donc beaucoup de difficultés, un souci de disque dur que j'expliquerai dans le prochain épisode de l'apéro des manchots, histoire de teaser un petit peu le souci. Voilà donc sachez que cet épisode n'a failli ne pas être monté ni diffusé. Néanmoins, comme c'était une occasion un peu particulière et puis que nous avions un invité et par respect pour la présence de... J'ai tenu quand même de faire un petit montage, donc l'émission sera un peu plus courte que d'habitude puisque c'est en gros ça a été 50 minutes. Je vous ai laissé un bonus avant l'enregistrement entre guillemets officiel. Et néanmoins, j'ajouterai un petit bonus en fin d'émission. Si vous êtes amateur de sable et de verre de sable, vous allez vite comprendre de quoi je parle, puisque nous aurons un signe d'un film qui est sorti récemment. Voilà, donc je vous laisse avec à peu près les 50 minutes d'enregistrement, plus un petit bonus avant. Et à la fin de l'épisode, pour parler de critiques sur ce film, exploitation ou non, je vous laisse le découvrir. Merci pour votre compréhension et bonne écoute de cet épisode.
Bon, ça, je vais pas le mettre dans le bêtisier à la fin.
Oh, tu peux.
Oh non, mais le truc de Morgane, c'était obligé, hein, la dernière fois. Là.
Ouais, c'était bien.
C'était quoi, c'est quoi, là, c'est quoi?
Mais si, quand t'as dit avec, ce qu'elle t'avait dit en Argentine, la fille, là. Je suis obligé de le mettre. Hein.
Non, je me rappelle pas. C'est de quoi, dans le dernier épisode? T'as mis un bêtisier dans un vieux épisode?
Ah ouais?
Ah, j'ai pas écouté, j'aime pas m'écouter, moi, en podcast.
Alors... Ah ouais, bah je comprends.
C'était quoi, là, du coup, le truc?
Mais si, quand t'as dit t'es un garçon génial, mais t'es pas capable de...
Ah oui!
Bon, bah,
ah oui!
Ça, La fille qui t'avait dit ça en Argentine.
C'est vrai.
Ouais, il faut arrêter de bouffer, hein, Morgane, pendant que t'enregistres. Parce que ça, ouais, c'est immonde. Ça. En plus, t'aimes pas ça, mais tu le fais pour les autres.
Non, c'est faux, je me mute souvent. Je suis toujours mute dans les
épisodes. Ah, mais là, enfin, dans l'épisode, il y a eu plusieurs fois où tu parlais en mangeant.
C'est vrai?
Bon, c'est vrai qu'à deux, c'est pas évident, mais bon.
Moi, j'essaie de me discipliner plus. Excusez-moi.
Je suis tellement spontané qu'il se rend pas compte qu'il avait parlé, il répond en mangeant, tu vois, c'est...
Non, c'est normal.
Bon, bah, quand vous voulez, hein.
Bah écoute, on est prêt.
Bon bah je fais un petit mute, je vais chercher mon apéro et on enregistre.
Ah, bah,
salut
John.
Ah mais t'as
fini. Eh ben voilà, on a fini. C'est bon, on a fini. Merci à tous. Hein.
Ah, merci. Bon allez, à la prochaine.
Bon, est-ce que le son est bon?
Non.
C'est parfait.
Enfin, ça dépend par rapport à quand. Donc il y a de l'écho, il y a le bruit des voitures dans la rue, et il n'y a pas le dessin animé, ça va.
Bah là c'est pas possible, je suis tout seul, donc...
Mets un dessin animé en fond.
C'est ce qu'il a fait la dernière fois. Donc ton micro est trop fort, on a testé, c'est à cause des micros trop forts l'écho.
Oui, bah c'est ce que j'ai dit à Morgan.
Et t'as pas le droit de manger non plus pendant que tu parles. Parce qu'on vient d'engueuler Morgan.
Ouais, mais Morgan il est habitué. Moi c'est la première fois.
C'est vrai, non, t'as le droit tant qu'on n'enregistre pas.
Non, sans déconner, mon son est bon.
Bah, on entend un peu l'arrière-plan. Vas-y, parle.
Je parle.
Ouais, ça gagne un peu.
En regardant les réglages Mumble. Alors attends, micro. Ok, Mumble. Non,
je fais un petit test de son pour voir.
Pitch. Stéréo Tool, on s'en branle. Il est où? WebRTC, je crois que c'est celui-là. Et là.
Ça a grésillé quand tu as parlé.
Mais il n'y a plus d'écho.
Je pense qu'on l'entend plus. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'écho.
Tu parles là?
On t'entend mort,
plus, John. T'entends plus, John. Bon, t'as dû muter, je sais pas quoi, mais.
Je veux dire que c'est pas WebRTC, c'est un autre.
Bah, on n'entend plus rien. Y'a plus personne.
Bah, normal, je parle pas.
Hein?
Et là. Là, ça doit être plus fort, non?
Bah, c'est pas GGN. T'es toujours en ADSL, John?
Ouais.
Alors là, t'es très bas.
Voilà. Et là, j'ai mis l'automatique leveling.
Ça me fait penser au décodeur Canal Plus qu'on avait à l'époque, ouais, sur les Pentium 2.
Exactement.
Il y a toujours plein de bruit de fond.
J'avais deux PC. J'avais un PC pour décoder l'image et un PC pour décoder le son.
John, t'es dans ta baignoire ?
Ouais, c'est ça. En fait.
Non.
On dirait que t'es dans une salle de bain avec de l'eau et tout.
Alors, attends. Ah, je sais.
Et là, il y a un enfant qui a crié quand même.
Ouais, là, c'est chez moi.
Non, c'était une mouette.
Voilà, j'ai enlevé le creep, mes couilles, là. Creepness.
Ouais, c'est bon. Ça me va.
C'est bon, là, ou pas?
Ah, beaucoup mieux.
Oui, ne touche plus, John, tu restes les doigts dans la prise.
Mais on a l'impression que tu es en train de frotter ton micro.
Oh, je sais pas, pas savoir ce qu'il fait avec son micro, s'il vous plaît.
Ouais, c'est parce que je mange des frites.
Il y a un gros écho. Bah, alors, le micro, il faut pas le manger avec les frites. Hein.
Ouais.
Ah, attends.
Faut pas tremper le micro dans la mayonnaise. Hein.
Là, normalement, vous entendez plus l'écho.
Non, c'est mieux.
C'est mieux.
Ah ouais. En fait, j'ai baissé le son de mon casque.
Ah, ça faisait écho.
Le micro, il est trop...
Ouais. Enfin, le casque... Hey, attends, c'est des frites de McDo, je reconnais le bruit du paquet.
Même pas.
Ok, bon, bah, quand vous voulez.
Mets-toi bien, John, quand tu parles pas, parce qu'on entend quand même des bruits de fond.
Bah, de toute façon, ouais. Là, je vais présenter le tour de table, je vais faire Fabrice, Morgan, Cédric, John. Comme ça, John, il aura temps de muter un petit moment.
Tu peux muter tes enfants en même temps ?
Non, je peux pas, mais bon, ça va se calmer dans pas longtemps parce qu'ils vont, ils vont regarder un truc à la télé. Là.
Vos gueules, les mouettes !
Le prochain qui parle, il est puni de, oh, il est puni de console.
Vous savez qu'on vous entend jusque dans l'Isère, là ?
Oh, tu peux même descendre en Savoie, là. Tu peux descendre en Savoie.
Jusque dans Savoie. Eh, ça a marché.
Eh, ils sont pas tous au Vaux-Maltine en plus.
Non, c'est la Haute-Savoie, ça. Ouais, c'est la Haute-Savoie suisse. Ouais.
Bon, allez, je fais le petit blanc et on va lancer.
Un petit blanc
et un rouge.
Du rouge.
3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 57 de l'apéro des papas manchots. Émission un peu imprévue, on s'est dit, bah tiens, allez, on en fait une deuxième au mois d'août. Parce que, qui dit occasion exceptionnelle, bon, il fallait une émission exceptionnelle. Et vous le découvrirez dans quelques minutes pourquoi nous avons décidé d'enregistrer cette émission. Comme d'habitude, il y a un petit tour de table à faire parce que nous ne sommes pas ni deux, ni trois, ni quatre. Et nous sommes cinq. Et j'ai le plaisir d'avoir comme premier invité celui qui fait son grand retour parmi nous. Et quel plaisir, parce qu'on l'a entendu quelque peu à la fin de l'émission précédente. Et il nous vient toujours de la magnifique Côte d'Opale. Bonjour Fabrice, comment vas-tu?
Salut Deka, bah, ça va. Un été pas au top, mais...
Non, il n'y a pas eu d'été. On est en octobre.
Ouais, la Toussaint, elle dure longtemps, je trouve.
Ouais,
ça.
Bah de toute façon, là, le prochain épisode, c'est la 60, donc c'est bon, on fait les 5 ans, là, après.
Vous avez le mauvais temps, là-haut?
Pas plus qu'ailleurs, hein. Pas plus qu'ailleurs. Parce que je sais plus, j'ai entendu là près de Lyon, mais un autre invité nous pourra nous confirmer. Il pleuvait cet après-midi. Donc,
Non. Et Fabrice, n'oublie pas que tu parles à un Savoyard.
Oui, un Savoyard.
Mais... Donc il va quand même essayer de se vanter d'avoir le beau temps.
Exactement ce que j'allais faire.
Et ouais. Il se présente tout seul en plus.
Je sais plus, j'ai fait quand même un trail dans le Massif Central le 25 juillet. Il faisait brumeux, de la brume. Alors que la semaine d'avant, on avait 35. On a eu 8-10 degrés quoi.
Ah ouais, non, c'est en juillet.
Et Fabrice, tu t'es trompé, c'était le 25 octobre.
Ouais. Cette année, il y a plusieurs 25 octobre.
Voilà,
il y en a un en juillet, un en août, et il y en aura sûrement un en octobre. En plus.
Et nous, blague à part, en mai, là, exceptionnel, mais mi-mai, il a neigé, mais il a neigé 10 cm, 20 cm. Je suis allé skier à... Ouais, je suis allé skier à...
La sardine. Hein non, en montagne, il a neigé, pas en plaine.
Bah, c'est ce que je dis, je suis allé à la Courchevel. Normalement, tu vois, ça ferme en mai. Là, il a neigé à un 10 cm, je suis allé faire des descentes de puffs, c'était génial. On avait de la super poudreuse. Mi-mai, c'est des trucs qui arrivent jamais. En fait, il a plu un peu toute l'année. C'était une super année pluvieuse. Et l'hiver, on a eu une super année à neige, mais les stations étaient fermées. On n'a pas pu en profiter correctement. Mais en vrai, c'est sur toute l'année qu'il a plu de... Ça a bien rempli les nappes phréatiques.
Tant mieux. Bah, c'est bien. En plus, comme ça, on a présenté deux invités d'un coup. Bah, bonjour, Cédric et Morgane.
Hello.
Les deux du...
De la région Rhône-Alpes.
Voilà.
et dont un qui a une montre qui sonne. Et je pense que c'est Cédric. Voilà, je me serais douté.
Auvergne-Rhône-Alpes, monsieur.
Oui, ouais. Auvergne-Rhône-Alpes. Mais l'Auvergne, j'ai tendance à l'oublier, c'est pas grave.
Ouais, parce que bon, eux, ils nous ramènent Ruquier, l'autre là. Putain, le politicien.
Ah, oui, non, je donne pas les noms, moi. Je dénonce pas.
Tu sais qu'il se teint les cheveux en blanc pour paraître plus vieux, pour inspirer plus la confiance des électeurs.
Ça m'étonne même pas, ça s'appelle la politique. Voilà.
Et je pense que nous, dans le coin, Martine Aubry, ça doit faire bien 15 ans qu'elle a les cheveux gris, hein, tu sais. Voilà, hein, donc elle fait une couleur aussi. Hein. Alors, après, c'est de la com', hein, ça. Mais bon, je veux pas rentrer dans le sujet de la politique, mais ce que je sais, pour en avoir rencontré plusieurs, c'est quand la politique est retraitée, en général, ils sont beaucoup plus sympas que lorsqu'ils font leur carrière en politique.
Ah oui, parce qu'on les entend plus, en effet. Oui,
à la base, c'est de base, hein, quel que soit le bord, un politicien, c'est quelqu'un qui est logiquement quelqu'un de sympa. Après, il veut vendre ses idées, mais une fois qu'il a plus d'idées à vendre, il reste sympa. Voilà.
Ouais, tout est relatif. Regarde, Chirac, on l'entend plus, il est sympa, hein. Chirac, on l'entend plus.
Bah, et Chirac, c'était le politicien préféré des Français, et bon, après. On peut critiquer. Je pense que son bilan, il était plutôt fiscal pour lui que bon, voilà. Et puis...
Mais Charles Pacherac, il s'est tapé la Corona avant tout le monde déjà.
C'est clair, ouais, lui, il s'est tapé la Corona avant tout le monde, c'est vrai.
À la fin de son bon mandat, hop, j'ai l'Alzheimer, donc toutes les machins que j'ai fait, je peux pas être poursuivi en justice. Tiens. Ah, lui, il était quand même champion. Hein.
Ah, lui, ouais, ça a été un champion. Hein. Et c'était le seul qui se prenait des cuites au salon de l'agriculture. Hein.
C'est un bon vivant.
Ah, lui, c'est un bon vivant, ouais. Et nous avons notre dernier invité qui, lui aussi, est arrivé comme un cheveu sous la soupe. Et il a bien fait parce qu'on traîne un peu dans les présentations. Bonjour, John, comment vas-tu?
Bonjour. Ça va bien.
Les frites sont-elles bonnes?
Écoute, excellente.
Ah, c'est alors tu nous as pas dit d'oublier ces frites franciliennes, John.
Bah écoute, j'ai été chercher chez un petit traiteur, je me fais un petit plat antillais là.
Ah.
Bah, c'est pas mal, c'est des frites de patates douces.
Ah oui, ça va être bon ça.
Ah, c'est un petit goût sucré là.
Ah, tu me donnes l'eau à la bouche.
Les dom-toms.
À la bouche. Maintenant que j'ai l'eau à la bouche, je vais enchaîner rapidement sur le sommaire. Donc il y aura les remerciements, on fait quelques news. Je crois qu'on a un geek plus. Et si on a le temps, et j'y viens, si on a le temps, puisque vous m'en êtes 5, ça sera peut-être pas sûr, on fera peut-être de la recommandation à la fin. Est-ce que ça vous va comme sommaire, messieurs?
Parfait.
Ouais, c'est parti.
Bon, bah pas de réponse, c'est que tout va bien. Donc, je vais enchaîner tout de suite sur les rangs, comme ça après je laisserai parler mes co-animateurs, parce que ma langue qui commence à, Ah, et trèche, et puis je pourrais passer à la rubrique de l'apéro, parce que j'ai oublié de le signaler dans le sommaire. Donc, les remerciements. Donc, Materix, MKT, Mr. Spock, Akumetsu, Gaëtan. Alors, Gaëtan, je vois pas trop qui c'est. À ce qui paraît, c'est quelqu'un qui fait un coticast. C'est
Gaëtan,
ça,
hein, pour vous servir. Pas, hein.
Voilà.
Je sais pas, il a fait des trucs bizarres à Mulhouse. D'après ce que j'ai entendu, il a fait des trucs bizarres à Mulhouse. C'est à Mulhouse, hein, c'est ça?
Non, Besançon. Besançon, pardon. Il a fait l'hélicoptère, l'hélicobit.
Il s'en passe beaucoup de choses dans l'Est. Kojo Premier, Papy Geek, Maxime Broca, Hippophile, Burberry et enfin Guillaume. Et je sais que Morgane voulait nous rajouter un petit remerciement, donc je te laisse voir rapidement ce petit remerciement.
Ouais, alors moi j'ai un remerciement sur Twitter.
Morgane.
Oui, Deka, on t'entend, si tu es une merde de papy.
On t'entend un peu, Deka.
Je n'entends plus rien.
C'est sûr.
Oui, Morgane, je ne t'entends plus.
Ouais, Deka.
Je crois que j'ai une grosse perte de paquets puisque je n'entends plus personne.
C'est ce que ta femme, elle dit tout le temps.
Pas la vie privée. Pas la vie privée.
Ouais. Oh mon Dieu.
Ah oui, je lag. Bon, bah, ça va être quelque peu compliqué. Bon, je crois qu'on va. Je vais me déconnecter, me reconnecter.
Alors,
et je crois qu'on va relancer
comme ça, on
le
sur ma
parce que si,
ADSL.
Si ça lag comme ça va être quelque peu compliqué parce qu'en plus je ne vous vois plus du tout. Je crois que je ne vous entends plus. Bon,
la météo.
Je déconnecte, tant pis, et on va relancer le sommaire tout de suite, comme ça on n'aura perdu que 5 minutes. À tout de suite.
À tout de suite.
C'est le moment de dire des conneries sur son dos.
Alors, comme ça, on me charrie sur mon ADSL et on n'entend plus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Ah, j'ai un jiggle pour ça.
Suite à un incident technique, nous interrompons vos programmes. Ils reprendront dans quelques minutes. Merci de votre compréhension.
Ah, top.
Parfait,
top.
Parfait. Alors, est-ce que tu nous entends, Deka?
Non, mais...
J'ai reçu un nouvel auditeur qui nous suit sur Twitter. C'est Eric Lessard. J'espère que je n'écorche pas son nom. Donc voilà, je vais le remercier de nous suivre sur Twitter maintenant et d'avoir aimé un tweet en été. Et c'est Mr. Spock qui nous avait recommandé sur Twitter. Donc merci à eux. Et je voulais aussi faire un petit remerciement sur Reddit de l'apéro des papas manchots. Donc bah là, vu que c'est un épisode fait à la rage, j'ai pas eu le temps j'ai pas mis des news sur Reddit, mais voilà, juste que suite au dernier épisode, on a encore gagné des membres et on est 9 maintenant. Nous sommes une communauté de 9. Voilà.
C'est extraordinaire. Bien, et on fait quoi pour le 10e, Morgane?
Ah, non, j'ai pas prévu le succès là.
Et sinon, le 10e, on lui envoie un MP.
Il a le droit de participer à l'émission.
Bon. Ouais, mais on peut pas envoyer des.
Et comme il saura jamais que c'est le 10e, bah.
Tu sais, sur Reddit, c'est vachement la vie privée.
Privacy by design, les gars. On ne peut pas savoir qui c'est.
Ben ouais, mais on va dire que si un des auditeurs qui nous écoute là, qui s'inscrit, on va voir qu'il est 10e, il nous envoie un tweet en disant je suis le 10e, et puis voilà, on l'invite.
Ah ouais, bonne idée si ça va.
Bon, après, si ça marche super bien, il y en aura 5, et du coup, on saura pas c'est qui le 10e.
Et ils pourront tricher.
Tant pis. Ou on les invitera les uns après les autres.
Bonne idée, on va faire ça. Moi, je valide.
Bon, après, s'ils veulent pas venir, il y a personne qui va s'inscrire.
On prend le risque. Allez, roll the dice, comme on dit les Anglais.
Ouais. Là, je pense qu'on a. Je vais avoir un petit accident technique. J'ai des grosses pertes de paquets. Donc, si vraiment ça ne va pas, je laisserai quelqu'un reprendre le lead et je vais me déconnecter parce que là, c'est quelque peu compliqué. En tout cas, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a un apéro ce soir ou pas?
Oui.
Vas-y, go.
Je n'entends rien dans les paquets à part du. Je suppose que. Je suppose que non. Eh bien, moi, ce soir, j'en ai un.
Alors, compliqué.
Quelque chose de très simple. Quelque chose de très connu. Quelque chose qui renaît de ses cendres. Est-ce que vous connaissez l'abbaye qui renaît de ses cendres?
C'est pas Grimbergen avec le
Eh bien, joué, mais voilà, c'est une Grimbergen, tout simplement. Puisque l'emblème de l'abbaye de Grimbergen est le phénix. Alors, bien sûr, c'est du marketing, encore une fois, parce que soi-disant, c'est une abbaye qui existe depuis 1128. Ça, je veux bien, mais ça, c'est toujours du marketing. C'est comme l'histoire de la triple carmélite avec la même recette 100 ans. Je suis pas sûr qu'il y a 300 ans, c'était les mêmes ingrédients que maintenant. Hein. Donc, voilà.
Mais en tout cas, j'ai aimé la présentation que tu as fait, l'introduction que tu as fait. Le phénix qui renaît, une vieille abbaye qui renaît. C'était joli.
J'ai une âme de poète, tu vois. C'est toi qui m'inspires. Tu es tellement quelqu'un de si génial.
Bon, si vous pouviez vous lécher le cul en dehors du podcast, ce serait pas mal.
Mais non,
j'ai pas entendu quand t'as eu des paroles de paquet ce qu'il a dit. Hein.
Il y en a un qui parlait paquet, l'autre, bon, bref.
Ouais, ouais, nous, Cédric, on te dit rien quand vous vous léchez ensemble avec Gaëtan. Hein, laisse-nous faire ce qu'on veut dans notre podcast.
C'est vrai, ça, c'est vrai.
Tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas que. Ouais, bon, bref. Ouais, attention, cet épisode va contenir des termes pour en choquer la sensibilité des plus jeunes.
C'est pas vrai, vous vous léchez pas, vous introduisez. Et parfois plus ou moins profondément, et souvent ça glisse. Et c'était encore dans le dernier épisode. Hein. Donc,
il en a perdu sa montre, Gaëtan.
C'est qu'il est allé un peu loin.
Alors, logiquement, elle ressort. Si elle est rentrée par là où je pense, elle ressort pareil. Juste un peu plus sale.
Autrement, je crois que John avait un apéro.
Comme il disait, il y a une blague, il dit genre. Tu mets un petit suisse sur une chaise, tu t'assois, il ressort intact.
Oui, ça, c'est les habitués qui font ça, en effet.
Oh là 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 là, comment on va faire une transition avec tout ça? Oh là là.
John, t'avais pas un apéro?
Si.
Vas-y, raconte-nous.
Mais pourquoi je ne l'entends pas avec dans ces monstrueuses presses de paquets? Vas-y, John, parle-nous de ton apéro.
Eh ben, pour aller avec mon repas, c'est un petit rhum arrangé à la banane.
Ah, du rhum que t'as fait, rhum maison.
Une nouvelle cuvée.
Oui. À la banane plantain.
Mais tu l'as laissé plantain, maturer plantain. Combien de temps?
Je sais plus. Bonne question. On est au mois d'août. Depuis... Aucune idée. J'ai oublié de mettre. J'essaie de regarder sur la bouteille en essayant de combler, mais malheureusement, j'ai enlevé l'étiquette. Donc, je sais pas.
La dernière fois, tu avais enregistré un streetcast, donc tu aurais pu retrouver, mais là tu n'as pas enregistré.
Bah non, parce que c'est la même...
Parce que je me souviens d'Astrid.
La même recette.
Au mois de décembre, mais c'était pas 2000 trucs comme ça que tu avais parlé de rhum, donc si c'est la même cuvée...
Non, c'en est une autre. Là, je l'avais essayé. La seule différence que j'ai faite, c'est que j'ai remplacé le pruneau et le café, ouais. Après, le reste, ça y est toujours. Donc, le réglisse, le sucre, pareil. Et puis la méthode de macération et d'échange, c'est exactement pareil pour la filtration. La seule différence se fait au niveau du fruit en lui-même. Et que ça a été beaucoup plus propre à nettoyer ma cuve qui me sert pour faire les préparations avec la banane. Donc voilà, si vous voulez vous essayer, que vous avez comme moi des cuves, des bocaux. En forme non classique, on va dire.
J'ai l'esprit mal tourné quand tu parles.
Non, c'est un crâne. Mon récipient que j'ai, c'est un crâne où on peut se servir avec le nez, enfin l'emplacement du nez, et c'est une merde à nettoyer en fait. Donc là, j'étais bien content avec ma banane que ça soit propre. Il y a eu quelques dépôts seulement des petits filaments qu'il y a sur les bananes. Et comme c'était la plantain, il y en a très peu. Et ils sont très fins.
Et elle est plus longue et elle est mieux courbée, la plantain.
Ouais. Et la saveur n'est pas du tout la même. Et d'ailleurs, j'ai envie d'essayer maintenant avec la fraissinette. Mais vu le prix des fraissinettes, on va attendre que je gagne quelques bitcoins.
Oh, monsieur investi.
Oh.
Non, mais c'est le meilleur moyen de gagner.
Certes, certes.
Certes, certes.
Je suis désolé, j'ai le voisin qui joue de la disqueuse là.
Il découpe sa femme.
Je voulais juste, j'ai un pote, il a investi dans la crypto. Ouais, bref, je vais la faire courte. En gros, il a investi dans la crypto, je crois, il a investi 1000 balles. Il a acheté plein de crypto-monnaies, machin. Et en fait, ça avait grave pris de l'ampleur pendant le confinement. Du coup, il l'a acheté quand c'était super cher et ça s'est tout cassé la gueule maintenant que l'économie, elle reprend. Et du coup, il est dégoûté, il a perdu 1000 balles dans la crypto. Bref, on se casse la gueule parce que du coup, on l'appelle le pigeon.
Ouais. Oui, ça monte, ça descend. Bon, on va pas faire des cours sur les cryptos, mais là, je crois que c'est remonté à un des plus hauts niveaux encore. C'est remonté à 50 000 dollars, un truc comme ça. Donc, il devrait retrouver 5 000 euros.
Faut qu'il la revende.
Enfin, après, d'après ce que j'ai compris, en gros, quand le Bitcoin monte, le reste suit.
Ah oui, l'ensemble des crypto-monnaies, oui, généralement, le maître étalon, alors, c'est pas une vraie vérité, mais le Bitcoin, la monnaie Bitcoin est le maître étalon, mais généralement, si le Bitcoin monte, en effet, les autres monnaies montent, c'est pas la vérité vraie, mais voilà, c'est ce qu'on peut observer. Mais comme on dit en finance, les performances passées ne prédisent pas le futur, donc voilà, il n'y a pas de règle absolue dans l'investissement et la revente, voilà.
Mais dis donc, tu joues à Mario en même temps que tu commentes l'émission ?
Non, je me suis fait un petit plaisir au niveau des notifications de mon téléphone.
Ouais.
Donc tu vois, il y a le bip horaire et puis les notifications, c'est Mario. Voilà, bon. Voilà, voilà.
C'est Gaëtan peut-être ?
Non, je regarderai après. Il y a un autre apéro.
Pourquoi tu leur as dit qu'on s'introduisait ?
Il y a un autre apéro parmi nous qui s'est invité, non ?
Non, moi j'ai la tisane de thym, c'est tout.
T'as la tisane, oh. Bon.
J'ai les gâteaux apéro.
Pisse-mémé.
En fin d'épisode, je vous laisserai quelques secondes pour aller chercher mon pisse-mémé. Pisse-mémé. J'ai du pisse-mémé moi aussi à la maison.
Très bien. Bon, Descat est toujours avec nous ou il faut reprendre le lead ?
Il faudrait mieux parce que j'ai des grosses pertes de paquets et franchement c'est la première fois que ça me fait ça. Alors je préfère des pertes de paquets que des pertes blanches, mais bon, je pense qu'on est un peu scabreux ce soir. On dépasse un peu les limites pour les propos envers des enfants. Je pense que Mr Spock va nous faire une remarque à nos dérapages.
T'as pas un petit très choquant
pour le jeune public. Je pense que nous allons devoir passer à la catégorie mature, moins de 18 ans.
Cédric, t'as pas un petit Peggy 18 à nous?
Non, je le fais.
Voir Granny.
Je le fais en live généralement, le Peggy 18. Ouais. Mais c'est vrai que les podcasts, je les ai tagués en explicite. Parce que oui, c'est beau faire un disclaimer en début, mais officiellement, on n'était pas encore en explicite content. Et ouais, j'avais peur qu'on se fasse retoquer. Donc voilà, notre podcast s'est passé en explicite. Donc peut-être que l'apéro, il faudrait aussi le passer en explicite. Mais ça ramène des abonnés aussi. Hein,
c'est une
marque de gageure.
C'est pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt, on va dire.
Non, mais si le vocabulaire est riche, je veux dire, pourquoi pas, quoi.
C'est pour ça que tu dis Bitcoin chat en plein milieu de l'émission, en fait.
Non, ça, c'est Gilles.
Le syndrome de la tourette.
C'est ça, voilà. c'est ça. Je voulais simplement savoir, le dossier, on le fait avant les news, c'est ça?
On fait comme ça vient. Vas-y.
Ouais.
Vas-y.
Bon. Bon, alors je saute tous les paragraphes où c'est marqué des cas, c'est ça?
Non, tu peux lui envoyer et puis s'il répond, c'est bien.
Bon,
non,
très
on passe
bien.
À la suite.
Très
tu
bien.
Peux y aller. Je sais même pas si j'arriverai à faire mes news parce que j'entends un mot sur cinq.
Bon, mais tu sais quoi, Deka, vu que tu nous attends encore, on va éviter de faire durer le plaisir. Je crois que tu voulais nous parler de la meilleure des distributions. Tu voulais nous faire un petit dossier sur un système d'exploitation qui est né, alors, j'ai envie de dire, il y a 30 ans. Ouais, il y a 30 ans. Au mois de septembre, ça fera 30 ans.
Bah oui, c'était pour cette grande occasion qu'on a décidé quand même d'enregistrer cette émission. Alors, cette fois-ci, comme c'est les 30 ans, et j'ai trouvé que l'article de Bruno sur développer.com était plutôt sympa, donc je vais le lire en entier, puis je pense qu'on le commentera à la fin. Et donc, tout puisque ça. Demain nous sommes le 25 août, bah ça sera les 30 ans de Linux. Et la question que Bruno se pose est, Linux n'a-t-il plus rien à envier à Windows autant qu'un OS desktop? À l'approche du 30e anniversaire de Linux, Jack Wallen, ingénieur logiciel et passionné de systèmes Linux, estime que les distributions Linux sont tellement meilleures aujourd'hui. Donc il se rappelle notamment de l'époque hein, où il y avait le noyau 1 et 2.0, dont le bureau ressemblait à presque à des clones de Windows 95. Et donc pour lui, le bureau Linux est passé d'un état lamentable, maladroit et improductif à une œuvre d'art presque avant-gardiste, en passant d'un environnement élégant, productif et professionnel. Pendant tout ce temps, il n'offrait plus de choix que la plupart des gens n'avaient le droit de considérer. Linux n'était pas agréable et confortable, c'était juste disgracieux. Heureusement, ce bureau n'a pas duré très longtemps. Caldera Open Linux n'a pas non plus tenu plus d'une semaine sur le bureau de certains utilisateurs. Je connaissais même pas. Au lieu de s'en tenir à cette distribution particulière, beaucoup ont quitté le navire pour Red Hat 4.2, avant que Red Hat devienne le RHEL. Alors c'est le Red Hat pour entreprise avec la licence, hein.
Oui.
Ouais. Une fois de plus, ils se sont retrouvés avec un ordinateur de bureau qui ressemblait davantage à un laboratoire de recherche universitaire qu'à un PC. Quelque chose devait changer. Linux a toujours été flexible et extrêmement puissant en termes de fonctionnalités et de services. Cependant, sur le plan esthétique, beaucoup de choses étaient reprochées aux distributions Linux. Ça, je reste d'accord. Les utilisateurs avertis qui savaient comment installer des logiciels à partir de ressources savaient également qu'un trésor de bureau sympa à installer existait. Mes recherches m'ont conduit à Afterstep. Je me souviens qu'il a été difficile à installer. Mais une fois qu'il a fonctionné, il est devenu ma toile numérique sur laquelle j'ai passé des années suivantes à créer de l'art de bureau, souligne Jack Wallen. À un moment donné, presque tout ce que j'avais sur le bureau affichait un certain niveau de transparence et tous ceux qui jetaient un coup d'œil à mon ordinateur regardaient avec étonnement ce que j'avais créé. Ils étaient jaloux et ils voulaient ce que j'avais. Parallèlement à Afterstep, il y avait également Enlightenment E16, un bureau plus cohérent. Enlightenment a été le bureau de prédilection pendant très longtemps de beaucoup d'utilisateurs Linux, concernant les outils de les productivité. À cette époque, les fidèles de Linux étaient plutôt très limités, du moins lorsqu'il s'agissait de travailler dans un environnement résolument Windows. Il existait StarOffice, WordPerfect, et pour la plupart, ils remplissaient bien leurs fonctions. Dernier paragraphe, une époque magique. Le bureau Linux a commencé à montrer ses limites. Les utilisateurs ne pouvaient pas enregistrer de fichiers dans le dossier document et double-cliquer dessus pour l'ouvrir. À l'époque, la plupart des ordinateurs de bureau en étaient tout simplement puissants. Oula, je crois qu'il manque un. Il en manquait quelque chose dans sa phrase. Jusqu'à ce qu'un nouveau bureau arrive sur le marché. Le bureau était Gnome, ça je connais. C'était en 1999. Et Gnome.0 était enfin prêt pour le grand public. C'était comme si les développeurs avaient pris toutes les bonnes choses et tous les gestionnaires de fenêtres et les avaient rassemblés en un seul. Le bureau Linux est passé d'un état pas confortable et peu productif à une œuvre d'art presque avant-gardiste, puis un environnement élégant, productif et professionnel. Pendant tout ce temps, il offrait plus de choix que la plupart des utilisateurs n'avaient le temps de considérer. Aujourd'hui encore, l'utilisateur peut revenir à Enlightenment ou opter pour Pantheon, Budgie, Kdeo, Openbox, Flubox, i3, Gala, Window Maker ou de nombreuses autres versions du bureau comme LXDE. La semaine dernière, alors que Microsoft s'active pour le lancement de Windows 11, l'équipe de développement de Debian annonce la sortie de la version 11 de Debian avec comme nom de code Bullseye. Bullseye est notre première version à fournir le noyau Linux avec la prise en charge d'un système de fichiers XFAT et qui utilise par défaut pour montrer les systèmes de fichiers XFAT. Par conséquent, il n'est plus nécessaire d'utiliser l'implémentation du système de fichiers dans l'espace utilisateur fourni par Paquet ExtraFuse. Les outils pour créer et vérifier un système de fichiers XFAT sont fournis par le paquet XFAT Progs, a déclaré l'équipe de développement Debian. La plupart des imprimantes récentes sont capables d'utiliser l'impression et la numérisation sans pilote et sans avoir besoin de pilote spécifique du fabricant. Bullseye introduit un nouveau paquet IPP-USB qui utilise le protocole IP over USB, indépendant du fabricant et pris en charge par beaucoup d'imprimantes récentes. Cela permet à périphérique USB d'être vu comme un périphérique réseau. Le dorsal officiel SAN sans pilote est fourni par SAN ESCL du paquet LibSAN 1 qui utilise le protocole ESCL. Même si Linux estime que ces distributions sont inappropriées pour bien des cas d'utilisation, les systèmes de bureau au mini portable, des serveurs de développement au système pour GRAP, ainsi que les serveurs de base de données au serveur web ou de stockage, toutes les statistiques sont formelles. Windows domine très largement le marché grand public. Le marché des systèmes d'exploitation pour PC est dominé par Microsoft et son fameux système d'exploitation Windows. Cependant, les distributions Linux restent une alternative de qualité à Windows. Voilà, voilà, ça c'était l'article de Bruno. Et je voulais avoir votre avis par rapport à mon bureau, parce que je sais que certains l'ont depuis bien plus longtemps que moi. Et je voulais savoir si vous avez vraiment remarqué l'évolution de ces environnements de bureau depuis presque 30 ans.
Alors, presque, il faut le dire vite, presque 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, au mois de septembre de 91, c'était la sortie du noyau Linux qui répondait à une problématique. C'était qu'à l'époque, il y avait un système qui s'appelait Unix et Minitrix, c'est ça ?
Minix,
qui posait un problème aux étudiants qui l'utilisaient en milieu universitaire, c'est qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser chez eux, ils ne pouvaient pas le recopier, le faire tourner sur leur machine. Donc, Linus Torvalds a essayé de répondre à cette problématique en faisant un GNU Unix qui est devenu GNU Linux, et donc c'est comme ça que Linux est né. Sauf que si vous téléchargez le GNU Linux, vous allez être un petit peu déçu parce que vous allez avoir un prompt qui va vous demander quoi faire. Et là, je pense que beaucoup d'entre nous vont être embêtés. Donc le noyau permet simplement d'associer tous les périphériques que vous avez, donc clavier, souris, disque dur, mémoire, et de les faire communiquer ensemble. Et puis c'est tout. Et derrière, eh ben, il faut associer un bureau, comme tu viens de l'évoquer dans ton article. Il faut associer un bureau, des gestionnaires, des programmes. Et c'est comme ça qu'est apparu les distributions Linux. Sauf qu'elles sont apparues un peu plus tard que 91, elles sont apparues à partir de 93, notamment avec la Slackware, qui est toujours d'ailleurs en activité, et Debian. Voilà, Debian qui sort en effet la version 11 aujourd'hui. Red Hat est apparu un petit peu plus tard, je crois en 94.
Debian est déjà sorti. Hein.
En 94, 1994.
Non, Bullseye, elle est déjà disponible.
Non, je te parle pas de Debian 11, je te parle de la première
parle
version
de
Debian.
Première version, John.
1994. Bon, et donc, mais souvenez-vous, il y avait quoi en face? Donc 93, 94, est-ce qu'on était déjà sur du Windows
3.1, non?
3.1, ouais, on était sur le Windows 3.1 avec son dérivé Workgroup qui permettait, ça y est, de faire communiquer les ordinateurs ensemble en entreprise.
Est-ce qu'il y avait des Apple?
Il y avait déjà des Apple, les Mac Lisa, tout à fait.
Il y avait encore des Atari et des Amiga.
Et il y avait les interfaces UI, enfin, je veux dire, c'était des fenêtres. En 95,
oui, Windows 3.1 était déjà en mode fenêtré. Alors c'était archaïque, hein, ça se reposait sur le bon vieux MS-DOS, je crois qu'on était en version 6 à l'époque. Mm-hmm. Et les réseaux n'étaient pas encore en TCP/IP, que je dise pas de bêtises. Non, pardon, on n'était pas en RJ45, pardon, on était en BNC. Voilà. Et Internet n'existait que dans la version universitaire et militaire. Le grand public n'y avait pas encore accès en full access. Donc c'est vrai que Linux, à l'époque, on le distribuait en version disquette ou en magazine quand on voulait avoir Linux. Pourtant, Linux est né sur les workgroups universitaires. Linus Torvalds avait lancé un petit message bien connu qui disait qu'il allait développer un nouveau noyau. Vous, qu'est-ce que vous faisiez en 93 au niveau informatique?
J'avais un Atari 1040 ST.
Ouais, Deka. Pardon, Deka Fab.
Je suis en train de me demander. 93, j'étais en terminale, je faisais rien du tout. J'avais un vieux PC qui était encore. Non, je crois qu'on n'avait pas encore le PC avec le Windows. Parce qu'avant, on avait eu un PC, les premiers Amstrad, c'était un 1512, je crois.
Ah, un PC 1512. Ah, bienvenue au club.
Donc j'avais Gem Desktop.
Oui, Gem Desktop. Oui, tu avais la première disquette qui était MS-DOS 3.1 et la deuxième disquette qui était Gem Desktop. Tout à fait.
Avec, j'avais deux lecteurs de disquettes, mais pas de disque dur. D'accord. Et après, je pense que ça doit être en 94 ou 95 où on a commencé à avoir un PC avec Windows 3.1. Non, ouais, c'est ça. Windows 3.1. D'accord. Sur un DX, je sais pas quoi, 86, quelque chose, qui allait pas très vite.
Bon, ça devait être du 286 à l'époque. Hein.
Ouais, c'était un 486.
Au DX266.
Ah, ouais. Et DX266. Attends, le 486DX, c'était une belle machine à l'époque. Hein.
Ouais, oh, le plus. DX266, oui, c'était avec le coprocesseur mathématique.
Je sais plus. Parce qu'on a, à ce moment-là, ça a évolué vachement vite, quoi. Au bout de 2 ans, ton PC était vraiment obsolète, alors que maintenant, il faut attendre 10 ans avant.
On était en pleine loi Moore.
Ouais, voilà. Et, mais par contre, sur ce. Alors, je sais plus si c'est sur le DX quelque chose, là, les premières versions de Linux que j'ai essayé, ça ressemblait effectivement à pas grand chose, quoi. C'était. T'avais une grosse croix qui s'affichait sur le bureau, et t'avais 3 fenêtres qui se battaient en duel, et tu ouvrais, il y avait Office, j'avais Star Office.
Oh, punaise.
Mais. Bon après, j'ai pas bien compris l'histoire de pas pouvoir enregistrer les fichiers.
Oui.
Bon. Bref.
je me souviens pas de ça.
mais par contre, je suis pas passé. C'était pas tout à fait utilisable au quotidien, quoi. C'était pas au top. Moi, par contre, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps que moi, ça fait que je suis sous Linux, mais purement que sous Linux. Je suis passé avec la Dapper Drake.
Donc en 2005, c'est ça 2005.
2006.
Et sur quoi Ubuntu à l'époque
Ubuntu Dapper Drake, c'était la 6.06, un truc comme ça. Donc okay. ça fait pile 15 ans.
C'était déjà sous Unity à l'époque, l'environnement, ou pas
Non, c'était GNOME 2.
D'accord.
Non, d'ailleurs, c'est quand c'est quand t'es venu Unity, je me suis un peu détaché de Ubuntu.
Ouais, mais tu pouvais pas revenir sur GNOME. Parce que je sais que moi, quand j'étais sur Ubuntu à l'époque, je pouvais changer d'environnement de bureau.
Oui, tu pouvais, mais il y avait d'autres choix un peu discutables sur Ubuntu à ce moment-là.
Ouais, ils avaient intégré Amazon.
Ouais, par exemple.
Oui.
Ouais. Je sais pas, vous avez d'autres souvenirs de vieux?
Et toi, Morgan, comment ça s'est passé? Dis-moi pas, t'étais pas né.
Ah bah si, il venait de naître, donc.
Ouais, je venais de naître. Non, j'ai pas grand chose à dire, mais juste ta news, moi, je vous ai réagir. C'est sur le chemin qui a passé Linux. Donc moi, par rapport à quand j'ai commencé à regarder sur les noyaux, je parle bien du noyau. Hein. Je trouve que le truc le plus extraordinaire, enfin le plus impressionnant qu'ils ont fait, c'est le fait de pouvoir qu'il se mette à jour tout seul le noyau. Enfin, qu'il se met à jour tout seul. Qu'il se met à jour et il peut se recharger dans la mémoire et là, tu vois, enfin, t'as pas besoin de redémarrer la machine et tout. Et genre, ça, Windows, ils l'ont pas. Et je trouve que c'est un super exploit. Enfin, c'est une avance technologique qu'ils ont qui est franchement remarquable. Plus maintenant, franchement, c'est un succès, quoi. Tout le monde, enfin, tout le monde. Non, pas encore tout le monde, mais. Il y a énormément d'entreprises qui contribuent, ils l'utilisent pour plein de choses, dans l'embarquer dans le machin, ils font du temps réel, c'est un couteau suisse, c'est comme VLC, quoi, ça a montré sa supériorité technologique. Alors peut-être pas commerciale ou je sais pas quoi, mais technologique, ça, pour sûr. Et voilà, bref.
Et John, on t'a pas entendu sur tes débuts avec Linux ou sur l'article?
J'ai, comme vous le savez, moi j'ai un petit problème avec les dates. Donc 93, j'ai aucune idée. ma première expérience avec Linux, de mémoire, ça va être avec la 10 ou la 12.04. Donc bien loin, il y avait Unity, tout ça. Donc du coup, j'ai pas connu tous ces problèmes dont j'entends souvent parler. Pour moi, c'était finger in the nose. Donc ouais,
Je partage ce sentiment. Moi, ma première expérience avec Linux a été un petit peu douloureuse. C'était à mon entrée en BTS informatique industrielle. Une semaine avant le début des cours, j'ai un copain qui me dit « Tiens, on va essayer Linux, on va essayer de l'installer sur ta belle bécane là, que tu viens de te monter. » Donc, on est parti pour l'installation de Slackware. On y a passé la nuit et le lendemain matin, j'avais réinstallé Windows. Voilà ma première expérience avec Linux en 99.
Ouais, à ce moment-là, c'était un peu délicat quand même. J'avais essayé Slackware et KDE, mais c'était pas très utilisable.
C'est ça, il fallait vraiment s'y connaître, je pense. Ouais. Pour...
Puis, ce cas, c'est que t'avais pas de tuto en ligne, donc... Enfin, c'était le tout début d'Internet. Moi, j'avais une bible. Enfin, j'avais acheté un gros bouquin avec 3 ou 4 distros dedans. Et il fallait lire, se taper les lignes de commande. Et tu savais pas trop où t'allais. Enfin, c'était assez compliqué quand même.
Ouais. Et là où je rejoins John, c'est que ça s'est vachement démocratisé parce que maintenant, l'installateur arrive à tout trouver de manière automatique. Les pilotes. Sauf si, bien sûr, on a du matériel vraiment exotique, mais dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal, en tout cas pour les périphériques standards. Et c'est vrai que derrière, ben, on switch directement sur un bureau, donc on n'a pas besoin de forcément connaître ce que c'est un noyau ou ce que c'est une ligne de commande pour pouvoir utiliser le Linux, un peu comme Windows.
Sauf si tu te lances sur une Arch-like, et là, tu peux commencer à souffrir tout doucement. Mais en apprenant de la meilleure des manières.
T'aimes bien apprendre en souffrant, c'est ça?
Ouais. Pour l'informatique, ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté un Raspberry Pi. C'est la meilleure des techniques.
Souffrir. Oui, pourquoi pas.
Bah oui. Bon. T'installes, c'est sur une carte SD, tu le foires, tu t'en fous, tu recommences, tu reformates et hop. T'as pas la retenue de « Ah, si je fous en l'air mes dossiers, si je fous en l'air ma machine, j'ai plus rien. »
Oui, quand t'as pas une machine familiale où t'es obligé de faire des choses, hein, des courriers, naviguer sur Internet, oui, tu peux te permettre ce genre de choses. Oui, enfin, tu peux t'amuser, mais bon, il y a des moments... Enfin, moi, je sais que j'arrête de souffrir, là. Je passe au concret. Mais oui.
J'ai une petite question. Par rapport à ce qu'il disait sur la fin, le nouveau protocole par rapport au périphérique USB, ça réinvente la roue ou c'est comme tu dis, parce que bon, pour moi, là, comme tu disais tout à l'heure, tu disais, moi, n'importe quel périphérique USB, le driver, il s'installe automatiquement. Mais quand on lit l'article, truc en plus amélioré. Et j'ai du mal à comprendre ce qui aurait de plus amélioré que le simple système d'un plug and play comme on a actuellement sur Mac, que ce soit d'ailleurs et sur Linux et sur Windows. Bon, sauf que sur Windows, ça, j'ai l'impression que ça cherche le pilote pour l'installer automatiquement, tandis que là, c'est plus sur du Linux, c'est plus un plug and play vraiment.
Tout à l'heure dans les news. Dans les news, on parlera des pilotes qui s'installent de manière automatique.
Vous en avez déjà parlé dans votre dernier épisode.
Oui, mais on le redira encore une fois. Vas-y, Morgan.
Ouais, je voulais juste voir une story là. J'ai sur mon Linux, mon PC, j'ai voulu brancher le téléphone Sony, je sais plus quoi là. Il n'arrivait pas à le reconnecter, alors que sur l'ordi de mon boulot, le Windows, ça marchait sans rien avoir installé. Donc, c'est encore pas parfait.
Alors, le problème, c'est que c'est bien le problème. Le mot-clé, c'est open source, liberté d'échanger, la portabilité, de que les périphériques puissent communiquer. Quand je parle de périphériques, c'est un scanner, une imprimante, un clavier, une souris. Alors, on a de la chance, les claviers et les souris, ça respecte des normes standards que tout le monde sait utiliser. Le problème des imprimantes et des scanners, il y a eu des protocoles standards à la base que tout le monde pouvait utiliser. Puis petit à petit, les constructeurs et les développeurs de systèmes d'OS, de systèmes d'exploitation, ont commencé à verrouiller le marché en faisant en mettant des spécificités sur des standards. Ce qui fait qu'une imprimante aujourd'hui que tu installes sous Windows et tu dis « ouais, ça marche nickel, mais sous Linux, ça ne marche pas », Ouais, mais est-ce que ça respecte le protocole standard? C'est bien là le problème. Et justement, les protocoles standards, par exemple pour les scanners, c'est la norme SAN. Pour les imprimantes, ben, à l'époque c'était du LPD. Bon, ça, certes, ça a évolué avec les techniques, etc. Mais voilà, donc Linux se bat aussi pour essayer de continuer à faire respecter ces standards, cette portabilité. Et donc, ils essayent de faire évoluer leur pilote pour que tout soit reconnu. Mais ce n'est pas toujours évident parce que des fois, une imprimante qui est vendue Windows, ben, généralement, l'intelligence de l'imprimante n'est pas dans l'imprimante, mais elle est dans le pilote qui est développé pour Windows. Point.
Moi, j'ai eu un problème avec la précédente imprimante que j'avais. C'était une Lexmark qui pourtant était vendue aussi pour Linux. Ils ont fourni un pilote et puis au fur et à mesure, bah, ils ont arrêté de fournir les pilotes et c'était de plus en plus compliqué à installer.
C'est ça.
Donc là, maintenant, j'ai une browser qui marche impeccable. Mais je sais qu'il y a certaines imprimantes qui ne sont pas super pratiques à utiliser sur Linux.
Non, ben, j'ai fait l'expérience avec une Lexmark. Et le souci, c'est que pour Linux, ouais, ils ont développé. Alors déjà, ils ont sous-traité hein, le développement du pilote. Et en fait, pour compenser le manque, enfin le manque de compatibilité standard, ils ont développé une surcouche logicielle qui justement travaille avec le protocole standard sous Linux. Donc, ça fait des rebonds un peu dans tous les sens. Donc, quand il y a un truc qui merde, tu sais même plus qu'est-ce qui merde. Bon, bref, c'est vraiment compliqué. Donc oui, ce qu'ils indiquent dans l'article, le fait que les nouvelles partitions exFAT, hein, c'est de la FAT étendue qui dépasse je ne sais plus quelle capacité. En fait, la FAT était limitée à une certaine capacité que maintenant on atteint. Et donc maintenant, le exFAT est apparu. On le voit essentiellement sur les périphériques portables, les cartes mémoire. Et jusqu'à présent, pour que ça puisse fonctionner sous Linux, pour qu'on puisse accéder à une carte mémoire, on était obligé d'utiliser un pilote complémentaire qu'on installait, qui s'appelait ExFatFuse, et qui permettait d'accéder en lecture-écriture sur cette carte mémoire. Donc là, le noyau Linux a évolué, ils ont intégré ce pilote, donc on n'a plus besoin d'installer. Maintenant, c'est natif, ça se fait de manière automatique. Pareil pour les pilotes SAN et les pilotes imprimantes, où maintenant, ça y est, ils essayent de l'intégrer dans le noyau Linux. Alors, il y a des choses qui sont intégrées, mais il y a aussi des choses qui disparaissent, parce que ce n'est plus usité. Un truc tout con qui avait fait les gros titres, c'était les pilotes pour les lecteurs de disquettes. Voilà, ça a disparu du noyau Linux. Voilà. Donc, c'est
Bah,
pas
c'est triste,
forcément du bullshit.
enfin, je trouve c'est un peu triste parce que, genre, si on se dit on veut retrouver une donnée qu'on avait sur une disquette, je sais pas quoi, tu sais, genre, dans un. Imagine un futur post-apocalyptique, je sais pas quoi. Bah, genre, si tu prends les logiciels, t'es, à moins de récupérer un logiciel en arrière, tu vois, de la version qui l'avait, et bah, tu seras plus capable d'avoir la technologie qui lit ça, quoi.
Oui, je suis d'accord avec toi. Sentimentalement parlant, c'est
Ouais, c'est
triste. Ouais,
ça.
non, c'est triste. Je suis d'accord avec toi. Il y a un moment où il faut savoir évoluer, hein. Les pistes en carton, on les a abandonnées depuis un bon moment.
Est-ce que vous avez encore des lecteurs de disquettes sur vos PC?
Bah justement, c'est ça, sur un PC, tu peux récupérer un vieux PC et récupérer le lecteur disquette. Et tu pourras
Ça
plus
et même
brancher.
l'architecture, elle fonctionnera plus, Morgane, c'est trop vieux.
Si, ça peut fonctionner, mais ce qu'il y a, c'est que en fait, au fur et à mesure où les supports de stockage évoluent, il faut sauvegarder ces données dans le nouveau support, quoi.
C'est ça. Il faut savoir
C'est-à-dire
faire vivre les données. Autrement, tu appliques la bête loi du RGPD. Enfin, pas la loi, mais tu appliques bêtement le RGPD, le droit à l'oubli. Voilà.
Parce que c'est le problème se pose aussi pour les lecteurs de, enfin les DVD, hein. Il y a de moins en moins de lecteurs de
Oui.
DVD sur les PC. Enfin, à un moment, moi, je stockais sur DVD. Bon bah.
Je pense que dans 10 ans ou 15 ans, en effet, on pourra mettre un terme au DVD aussi. Ouais. C'est vrai. Au niveau des bureaux, je crois qu'on est assez disparate, hein. Il y en a qui utilisent GNOME. Là, l'article, a priori, fait l'article pour GNOME, l'évolution de GNOME, le bureau épuré. Bon, il parle également d'autres bureaux. Le bureau le plus connu également, c'est KDE. Vous utilisez d'autres bureaux, vous, au niveau Linux?
Le bureau Mint par défaut.
Mint par défaut,
Donc
c'est
c'est
qui?
Cinnamon.
Cinnamon.
Moi aussi j'utilise Cinnamon mais à ma sauce. C'est-à-dire que ouais, ça ressemble plus à un Unity ouais, à ma forme, à ma sauce. C'est-à-dire que j'ai la barre en haut, j'ai le dock sur le côté gauche, Et puis voilà, je
Donc
bidouille comme.
toi qui as quitté Ubuntu pour Unity parce que tu n'aimais pas Unity, maintenant tu te fabriques un cinnamon à la Unity. C'est beau ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand
T'es
tu
un
commences.
peu pervers, Fabrice, hein.
Ouais, non, mais quand tu commences à prendre des habitudes, après tu as du mal à changer. Tu vois, c'est pareil, à un moment j'ai crisé parce que. Comment dire, Ubuntu avait mis ses boutons à gauche et c'était le seul, comme sur un Mac. Et j'ai pesté quand ils l'ont fait, et finalement je m'y suis habitué, et maintenant je le fais partout. Parce que sur tous les autres bureaux, en général, les boutons sont à droite, et sur Linux aussi. Sur Windows, pardon.
Les boutons sont à droite avec Windows 11, c'est ça?
Mais en
Sur tous les
reste,
Windows, Windows a toujours été, tous les
à
boutons ont
droite.
toujours été à droite.
Là, fermer la fenêtre, agrandir, minimiser, c'est à
En
droite.
fait, Ubuntu a commencé à mettre ses boutons à gauche parce qu'il voulait intégrer la barre du haut dans la barre de,
De
enfin,
titre?
ouais, dans la barre de titre.
Non, mais c'est vraiment pas bête parce que tu sais, quand t'es sur pas des touches, bah, le fait que ça soit à gauche, t'as vachement moins de mouvements de souris à faire.
Bah,
T'es
c'est ce
la
que je
barre.
en fait je m'en suis rendu compte et c'est pour ça que maintenant je les ai gardés à gauche parce que tu vois, en général tu vas dans le bouton de menu qui soit en haut ou en bas, il est tout le temps à gauche et t'as les boutons juste à côté, donc tu gagnes vachement de, surtout sur les écrans de 18 000 pouces là, tu gagnes vachement de déplacement, ouais. Mais bon, c'est des habitudes, et les habitudes, ça on peut pas, c'est toujours celui qui a l'habitude qui dira que c'est la sienne est la meilleure, mais une fois qu'on l'a adopté après.
C'est l'avantage d'être sur du Linux, hein.
Ah voilà, c'est l'intérêt, c'est que tu peux choisir et tout modifier comme tu en as envie.
Je peux glisser un petit mot d'appoditeur quand même, parce que il y en a quand même un qui nous a laissé un petit commentaire tout à l'heure.
Ben, vas-y.
Donc c'est le pangolin contrebandier. Donc qui a écrit: quand je repense à mon Pentium LL, un vieux Debian avec FUBAR
Pentium 2,
2000.
pas Pentium 2, pas Pentium LL.
Pentium B2, oui, pardon. Un vieux Debian avec FUBAR 2000 et Superflip à fond. Merci
Stupéflip,
Linux.
Stupéflip.
Stupéflip. Je suis un peu dyslexique ce soir
Et
ou.
foubar, c'est avec deux os.
Ah, FUBAR. Bah là, il a mis FUBAR avec un U, hein, donc.
Oui, j'ai vu
Voilà.
que c'était foubar.
Vous connaissez
Ouais.
Stupéflip? C'est bien, vous gagnez mon estime.
Moi, c'est la première fois que j'entendais ce mot-là. Hein.
Tu connais pas? Bon, si, t'as déjà dû entendre. Tu
Quand
pourras
je
mettre.
fume du shit.
Ouais, depuis que je fume plus de shit,
Ah oui, ouais, c'est ça.
tu pourras la mettre en
Ah oui,
générique.
d'accord. Bon, bah, c'est bon.
T'as ton
Ok. Eh
générique de fin.
ben, c'est parti, on a le générique de fin.
ben,
Non, c'est
Vous
génial.
essayez de nous faire ban d'Apple ou c'est comment?
Mais pourquoi t'en parles mal du coup? Pourquoi t'as dit depuis que je. Justement, c'est une chanson qui se moque des fumeurs de shit. C'est vachement du second degré, c'est tout le principe du groupe.
Bah oui.
Bah oui, John, il avait pas compris. John, il prend ça comme ça vient.
Non, j'ai compris. Mais Apple ne comprendra pas.
Oh, tu sais, Apple,
Oh.
il nous. Apple, je sais même pas si. Tu sais, on a un commentaire 4 étoiles sur Apple. On a 4 étoiles sur Apple. Donc, tu sais, pour moi, ça vaut presque 5 partout, tu vois. C'est notre Oscar à nous. On n'a pas du contenu mature comme certains.
Du contenu travaillé, du contenu travaillé, s'il te plaît. Du contenu travaillé.
Je pense. Et voilà, chose promise, chose due. Voilà, je vais vous faire une petite critique. Du moins, je vais prendre plutôt le temps de vous donner ma critique sur le film qui a déjà de très bonnes critiques sur Allociné et autres. Moi, je vais essayer de l'analyser ce film de la manière la plus objective possible, en sachant que j'ai déjà un certain passif avec cette saga, puisque bon, je n'ai jamais lu les livres, mais j'ai vu le film de David Lynch notamment. Et hier soir, avec une. Je dirai à la fin. Je vais d'abord commencer par les points positifs du film. Eh bien, vous spoiler un tout petit truc, c'est la première partie. Alors pourquoi je vous le dis tout de suite? Parce que déjà, dès le début du film, au bout de 3 minutes, il est marqué d'une première partie. Et je pense que c'est la meilleure manière qu'il l'a écrite. Il faut savoir que ça fait des années et des années que les réalisateurs essayent de Dune. Il n'y en a que deux qui ont réussi à se lancer. Dont, alors que c'était dans les années 70, le projet était complètement fou, mais vraiment fou. D'ailleurs, je vous conseille de voir Jodorowsky Projet parce que voilà, c'est le film qui a été annulé, qui est peut-être le plus frustrant de toute l'histoire du cinéma. Complètement psychédélique des années 70, qui est l'acteur français Michel Sédoux, et ils avaient commencé à se lancer sur le projet de Dune, mais le projet avait commencé à réunir un casting complet. Il y avait Orson Welles, Salvador Dali, Amanda Lear, Mick Jagger, il y avait encore donc jouer le héros du film, Paul Atreides, et il faut savoir que cette œuvre n'a pas pu se réaliser. Alors ils avaient également impliqué dans le projet les Pink Floyd, qui devaient réaliser la bande originale du film. C'est un projet complètement fou. Et le financement n'a pas pu être réalisé, puisque en gros, le réalisateur a dit, faire un film de l'ampleur de Dune, il faudrait que ça dure 4 ans. Et donc, dans les années 80, le réalisateur David Lynch a fait une première adaptation du livre qui est devenue culte sur le temps parce que c'est pas. Moi, à mon avis, cette adaptation de Dune n'est pas un mauvais film parce que l'histoire de Dune est très complexe. Je vais pas me lancer dans un exposé, les enjeux de ces familles et tout l'univers qu'il y a autour, parce que c'est très 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 compliqué. J'essaierai de vous résumer dans quelques minutes, vraiment de manière très succincte, pour vous donner un petit peu l'envie, oui ou non, d'aller voir ce film. Sachez néanmoins que réalise un film qui a fait un bide au cinéma, et qui sur la durée, comme Blade Runner d'ailleurs, est devenu un petit peu plus culte. Bon, Blade Runner est vraiment un grand film, David Lynch et son Dune, où il y a beaucoup de défauts et malgré tout beaucoup de qualités. Donc je le trouve le film moyen, mais voilà, j'ai un certain affect malgré tout pour ce film parce que pour se lancer sur ce projet. Voilà, donc maintenant nous sommes en 2021 et le réalisateur canadien Denis Villeneuve, pardon, s'est lancé dans le projet et il a réuni un casting quand même tout à fait pas le Timothée Chalamet, Zendaya qui sera du film également, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, j'en passe et des meilleurs, Javier Bardem également. Donc un casting assez international. Nous avons des acteurs européens, des acteurs nord-américains. Et je vais commencer par les points positifs de ce film. Déjà, ce qui est très bien, c'est que si vous avez lu un petit peu l'univers de Dune, vous allez facilement vous y retrouver. C'est d'ailleurs un très bon conseil que je peux vous donner si vous allez voir Dune, puisque Dune, c'est même bon, c'est une phrase, c'est plutôt l'enjeu le plus important de ce film, Arrakis, et la ressource principale et la plus importante de tout l'univers, qui est l'épice, qui permet aux voyageurs de l'espace et des trajectoires et de voyages intersidéraux plus intéressantes, et également pour tous ceux qui, excusez-moi pour le bruit d'avion, parce que oui, j'habite près d'un aéroport, pour l'épice également, ça permet aux Fremen qui vivent sur Arrakis de survivre. Tout ça. Je vais rapidement résumer autour de cette histoire d'Arrakis. C'est donc l'enjeu et le contrôle de cette planète. Il y a les Harkonnen, qui étaient exploitants de cette planète, qui jusque l'an 10191 et l'ordre de l'empereur Padishah Shaddam IV donne l'exploitation de cette planète aux Harkonnen, et on découvre que du jour au lendemain, ce même empereur donne l'exploitation des planètes Arrakis à la famille Atreides, qui sont les cousins des mêmes Harkonnen. Voilà, donc ça, je vais pas plus rentrer dans l'histoire, puisque c'est vraiment très complexe. Ça, il y a d'autres personnages qui rentrent en jeu et de la manipulation. C'est vraiment un univers assez complexe. Donc si vous comptez vraiment d'aller le voir, je vous recommande de nouveau d'aller vous renseigner sur tout cet univers. Voilà, donc c'est vraiment sur pendant à peu près 1 heure de film, on a vraiment un très bon résumé de l'histoire. Et c'est déjà une très bonne chose qui permet d'introduire vraiment tous les personnages. Les décors, voilà, je vais continuer dans les points positifs. Les décors sont vraiment magnifiques. Tout ce qui est désert, parce que je pense que ce film, c'est pas un film qui va créer une ambiance très fantaisie. Ce film, c'est malgré tout une histoire assez sombre, assez malsaine. Parce qu'il y a beaucoup de précédemment, il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas très très joyeux. Pour vous donner une idée, je vais vous donner un tout petit truc, mais c'est pas vraiment spoilé. Je vous dirai pas qu'il sert d'un autre en torturant sa femme. Il y a des personnages qui sont aussi des sortes de manipulateurs qui sont tout en noir. Et vous allez voir, c'est un film qui est malgré tout très beau lorsqu'on est dans le désert et lorsqu'on est sur la planète des Atreides. Et cet univers suit selon les planètes où on va se rendre. Il y a 4 planètes où on va se rendre. On arrive facilement à découvrir. Voilà, c'est la planète des Intels, c'est la planète des Intels, des Intels. Ça, c'est vraiment très bien fait. Les scènes dans le désert sont très belles. Les décors sont magnifiques. Ça a été tourné en Jordanie et la planète des. Et c'est vraiment de très beau décor, certes minimaliste, mais ça ne me déplaît pas. Et j'ai entendu des critiques qui disaient oui, l'ambiance est un petit peu, c'est un peu vide. Oui, mais il faut pas oublier que c'est une planète désertique, donc je pense pas qu'ils vivent sur cette planète. Voilà, c'est obligé que ce soit dans le désert. Et puis en plus, il explique très bien l'absence de peu de monde sur cette planète, c'est que la température est juste insupportable. Donc ça ne me choque pas. Il y a beaucoup de choses dans le film qui mettent cette ambiance un petit peu étrange, qui sont expliquées. Donc moi, ça ne me dérange guère. Les scènes plus spectaculaires ne sont pas là pour faire du spect, bah, du visuel. C'est vraiment là pour apporter un sien à l'histoire. Il y a des scènes de bataille qui sont là et qui sont là pour justifier l'histoire et justifier les rebondissements avec tel ou tel personnage. Donc c'est pas fait pour faire du, c'est pas un, voilà, c'est l'anti-Marvel, c'est même l'anti-Star Wars. Je dirais même que ce film, de manière générale, c'est l'anti-Disney. Disney, Star Wars, Marvel, c'est vraiment un film qui est fait pour une œuvre qui va être à contresens de tout ça. Et paradoxalement, quand on voit le film, on se rend compte que tout le mythe, ben, on se rend vite compte que ce Paul Atréides et son histoire va inspirer tout ce qu'il y a dans Star, qui vont se baser dans tout l'univers science-fiction. C'est vraiment. Et en même temps, c'est tellement complexe que les autres ont fait un univers beaucoup plus facile. Denis Villeneuve s'en sort très bien de par la complexité des familles, bah, et de tous leurs enjeux. Et mon ressenti quand je suis sorti à la film, c'est que certes, on se rend compte que c'est la première, que le commencement de l'histoire. Et en même temps, ce qu'il y a de bien fait, c'est que on a une envie, on voit des choses, on se dit tiens, est-ce que ces choses-là vont suite ou les suites? On ne sait pas combien il y aura de parties à ce Dune. Voilà. Mais vraiment, c'est un bon ressenti. Maintenant, je vais donner mes points négatifs avant de donner. Il y a des moments, il y a certaines longueurs. Et ce film est un peu comme son. Comme Blade Runner 2049, qui lui-même était un tout assez contemplatif. Et si on veut faire une histoire qui semble cohérente sans passer par des bypass, on est obligé de prendre le temps d'expliquer. Et il y a quelques minutes, David Lynch avait dû faire des grosses coupes et qu'un film à faire. Là, Denis Villeneuve prend le temps et de rendre des hommages flagrants à certaines scènes du film. c'est monstrueux. Il y a des moments où on se dit, ah oui, c'est quasiment plan pour plan, près de 40 ans d'écart. Et en même temps, ben, il a le temps d'exposer tous les enjeux de l'exploitation de cette et du fait que les Atreides prennent sur cette planète. Et on a vraiment... ça traîne un peu en longueur. Et je dirais que les 20 dernières minutes traînent un peu plus en longueur. Je vous dirai pas ce qui se passe à la fin, c'est pas le but. Il y a alors d'une part des effets de ralenti dans certaines scènes qui sont pas, je trouve, pas justifiés. Il y a des passages qui sont un petit peu longués dans le désert, que je trouve un petit peu inutile. On aurait pu gagner peut-être 10 minutes sur ces 20 dernières minutes. Semblait un petit peu, voilà, ça c'est, attention, c'est loin d'être interminable, parce que bon, Denis Villeneuve étant un très bon metteur en scène, même si les scènes semblent un peu vides, les décors sont beaux, donc il y a quand même, et il y a un petit reproche aussi, il y a deux planètes au niveau de la colorimétrie peut-être, ou de l'étanolage de l'image, je ne suis pas assez cinéaste pour deux éléments et le bon, mais je dirais qu'il y en a deux sur quatre planètes où si on ne voit pas les costumes tout de suite, on ne se rend pas compte de quelle planète ça parle. Sinon, ben, j'ai passé vraiment un très bon moment. J'irai voir avec grand plaisir la suite au cinéma, parce que y a que sur le son, notamment avec tout ce qui est vaisseau, coléoptère, là, c'est vraiment le son. Et un dernier petit point négatif, vers la fin du film également, il y a une scène qui se passe dans un mini vaisseau de transport, qui, permettez-moi du terme, qui me paraissent un petit peu, pour ceux qui le verront, ils reconnaîtront peut-être de quoi je parle, mais ça traîne un peu, et ça fait partie des scènes que j'ai pas trop apprécié. Voilà. En tout cas, pour conclure cette émission et cette critique, allez voir le film, passez un bon moment, parce que moi je suis allé dans une petite salle et on n'était que 4, donc ça me fait un petit peu mal de bon film comme ça, d'avoir attiré que si peu de spectateurs. Malgré tout, il aura son succès. Et encore une fois, ben, pour revenir à l'émission, je vous prie de nouveau la qualité du montage, j'ai fait le maximum que ce que je pouvais. Comme je l'ai dit, ben, malgré je voulais que Cédric, qui avait fait l'honneur de sa présence, soit malgré tout honoré par la diffusion de cet épisode. Donc voilà, je vous l'intégrer dans cet épisode. Puis le retour de Fabrice également. Donc voilà, un épisode à 5, c'est exceptionnel. Donc je voulais le faire, et j'espère que l'émission que l'on prochainement sera moins tronquée par les soucis de bandes passantes et autres coupures et de soucis de disque dur. Et je vous remercie encore une fois de votre indulgence, et je vous dis à toutes et à tous bonne continuation, encore à nous de nous écouter, et on se dit à bientôt dans de meilleures conditions. Ah, ciao ciao, salut.
Et que la vie est brève. Je suis bien dans la rue, je suis bien dans ma tête, et dans mes sweatshirts et mes pulls, je n'ai plus trop de boulettes. Je fais du sport, je me lève à 8h, fini les grasses matins interminables jusqu'à 4h. Je suis plus vif et je me trouve plus beau, fini les yeux rouges, le teint pâle, la parano. Je fume plus. la NPE, j'ai trouvé du travail, je suis vachement positif,